Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue dans le matin des musiciens du vendredi. C'est sur France Musique et nous retrouvons un désormais vieux complice malgré son jeune âge, Geoffroy Couteau. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, vous êtes réputé pour votre brahmsisme fondamental. Peut-être que les auditeurs se souviennent que nous avons commis ensemble une émission, je crois que c'est la saison dernière, sur les balades d'Opus 10.
C'est ça.
Alors, comme vous êtes méthodique, au lieu d'aller à l'Opus 11, eh ben, vous retournez vers l'Opus 9. C'est celui qui va nous occuper aujourd'hui. C'est des variations sur un thème de Schumann qui a été publié en 1854 à Leipzig comme opus 9, c'est-à-dire avant les balades.
Juste avant.
Ce n'est pas la première œuvre en forme de variation que Brahms a écrite. Et il a d'abord écrit des variations sur un thème hongrois qui ont été publiées beaucoup plus tard en 61 avec les variations sur un thème de lui-même comme opus 21. Donc c'est une œuvre de main de maître. On y entend le savoir musical, le génie du pianiste et puis aussi toutes sortes d'autres choses que nous allons essayer de déchiffrer parce qu'il y a beaucoup de monde autour de cette musique.
Avec plaisir.
C'est bien ça, il y a
beaucoup
de monde.
Beaucoup de monde
mais... Alors, premier personnage, naturellement Schumann, puisque c'est des variations sur un thème de Schumann. Deuxième personnage, parce que quand il y a Schumann, il y a Clara Schumann.
Toujours.
Voilà. Il y a déjà deux personnes. Alors, on revient à l'époque de leur mariage en 1840. Ça s'appelle « L'amour et la vie d'une femme ». Et je ne vous dis pas qui chante parce que vous la connaissez par cœur.
Ist Licht und farblos alles um mich her. Nach der schwersten Spiel nicht begehr ich mehr. Mich der Liebe weinen.
Seid ihr
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, es hat ein Traum mich berührt.
Wie so wundervoll. Thank you.
Kathleen Ferrier et John Newmark pour les leaders de Schumann, Frauenliebe und Leben, sur des textes d'Adalbert von Chamisso. C'est un texte qui est troublant, en particulier le dernier, car je t'ai, les derniers mots, car je t'ai toi et mon bonheur perdu, toi mon monde.
Oui.
C'est une veuve qui chante.
Oui.
C'est absolument effrayant.
Ça conclut sans la voix.
Absolument.
Avec le même thème, mais cette fois avec le vide de la personne qui n'est plus là. Quoi. Donc,
mon bonheur perdu.
C'est ça.
Mein verlorenes Glück, du meine Welt. C'est tout de même surprenant d'offrir ça à son épouse pour...
C'est pas son cadeau de mariage, c'était composé l'année du mariage.
L'année du mariage, mais enfin, il pensait au veuvage.
C'est
déjà.
Ça, déjà.
C'est tout de même assez surprenant. Alors, pourquoi ce prologue ? Eh bien, parce que le drame va se jouer, qui donnera l'occasion à Brahms d'écrire ses variations opus 9 sur un texte de Robert Schumann, parce qu'entre-temps, il y aura eu une sorte de rencontre explosive
oui.
entre Schumann, Clara et le jeune Brahms qui, tout d'un coup, arrive. Et il faut dire que le texte de Schumann, qu'on cite souvent, est un peu délirant.
Oui.
Il parle d'un prophète, d'un Saint Jean-Baptiste. Enfin, il faut dire qu'il était exceptionnellement beau. On a les dessins de Bonaventure Laurent, où il était très blond, très mince. Tout ce que n'est pas Brahms dans notre
tête. À
la
tête. Fin, c'est ça.
Voilà. Bon.
Un jeune homme vaillant, et, tout à fait. Et qui jouait admirablement bien. Donc, il arrive chez le couple Schumann, le 30 septembre 1853, Johannes, donc il a 20 ans, Clara en a 34 et Robert en a 43. Donc une configuration un petit peu particulière puisque tout le monde en fait va s'admirer profondément et sincèrement, mais avec des amitiés plus qu'ambiguës, on peut dire, entre tous un peu. Et en fait, l'opus 9 de Brahms va être un peu le symbole de cette rencontre puisqu'il choisit un thème de Schumann, de
avec
Robert.
Des tas de références. Il faut peut-être déjà rappeler les choses. La pièce est d'abord écrite à l'occasion de la naissance de Félix Schumann, le 11 juin 1854. Félix Schumann, c'est le
septième
enfant
oui, de Clara.
Mon Dieu. Le septième enfant, et il porte le nom de Félix par rapport à leur ami commun, Mendelssohn.
Absolument.
Alors, pour cela, Brahms présente à Clara Schumann des variations brèves sur un thème de lui, dédié à elle.
Oui.
Surprenant comme manière de dire.
C'est ça, avec en plus des petites citations d'œuvres qu'a composées Clara à l'intérieur.
Alors, on en parlera plus loin, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait au départ 14 variations et Brahms avait écrit à Clara Schumann en sincère admiration par Johannes Brahms, 15 juin 54. Quatre jours après la naissance du petit Félix. Après, il y a eu deux autres variations qui ont été ajoutées, la 10e et la 11e, avec la date Düsseldorf, 12 août 54.
Qui est c'est la Sainte Clara.
La Sainte Clara. Donc, il y a des tas d'allusions personnelles dont on peut penser qu'elles marquent un grand trouble
oui,
chez les trois personnes.
Chez les trois. Et
on n'ira pas plus loin.
Non, on n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, qui en sommes très, très, très loin, ces troubles sont déclencheurs d'œuvres vraiment uniques, donc, dont celle-ci, puisque Schumann, Robert, se sent quand même déjà un peu vieilli. Il n'est pas dans une phase très positive au niveau mental. Et la rencontre avec Brahms lui redonne envie d'écrire. Et ce sera d'ailleurs sa dernière œuvre, l'opus 133, hein, Gesang der Frühe, Les Chants de l'Aube, avant qu'il ne se fasse interner. Puisqu'il va se faire interner en 1854, le 4 mars, et il ne composera plus ensuite, mis à part ce thème des esprits, qui n'est pas vraiment un thème qu'il a créé, puisqu'on le retrouve dans une symphonie précédemment. Donc, c'est quelque part, enfin, c'était une hallucination en fait, de sa part.
Donc, vous avez compris que le contexte biographique de ces trois personnages est extrêmement lourd.
Oui.
Et la musique est d'une maîtrise absolue. Oui. Vous me disiez tout à l'heure, Geoffroy, que Arnold Schoenberg, qui admirait beaucoup Brahms, disait que c'était une de ses plus belles œuvres.
Une des plus parfaites compositions.
Je veux bien croire parce que l'œuvre est parfaite, mais elle est sombre. Alors accrochez vos ceintures, Geoffroy, mettez-vous devant votre piano et nous sommes partis pour...
Mais elle est belle.
Oui, elle est belle mais sombre, ou sombre mais belle. Les variations opus 9 sur un thème de Robert Schumann, de Johannes Brahms. Geoffroy Couteau pour le matin des musiciens, c'est sur France Musique.
Thank you. Thank you. Thank you.
Nous écoutions Geoffroy Couteau pour le Matin des musiciens. Nous sommes au studio 118 de notre maison de Radio France à Paris ce matin. Et c'est les variations sur un thème de Robert Schumann à Madame Clara Schumann dédiée. C'est sur la partition. Alors, le thème, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
C'est une sorte de chorale.
C'est une écriture à quatre voix, en tout cas.
C'est une écriture à quatre voix, avec une structure très classique, à savoir des carrures de quatre mesures, qui donne un rythme à la phrase très repérable et qui va donc être propice à des variations. Et l'autre chose, en plus de ces carrures, c'est que à la fois la ligne mélodique est très simple, mais il a une ligne de basse qui est très intéressante. Et aux yeux de Brahms, il faut savoir que c'est quelque chose d'essentiel. Et à ce propos, j'aimerais bien vous lire une lettre qu'il écrit à Joachim, donc son grand ami violoniste. Il m'arrive parfois de réfléchir sur l'art de la variation. Il me semble qu'il faudrait en user avec plus de rigueur et de pureté. Les maîtres anciens conservaient strictement la basse, qui était en fait leur véritable thème. Mais comme chez Beethoven, la mélodie, l'harmonie et le rythme sont admirablement variés. Il me semble pourtant que les modernes que nous sommes devraient fouiller davantage leur thème. Nous usons de la mélodie trop timidement, mais pas assez librement, d'une manière nouvelle. Nous ne faisons que l'alourdir, ce qui empêche de la reconnaître vraiment. »
Alors, Geoffroy, on entend là un musicien qui était peut-être le premier à avoir une conscience malheureuse de l'histoire. Oui. Il faisait référence toujours au compositeur baroque, ancien, avec l'idée de la basse. C'est pas un hasard tout de même s'il a réalisé une version pour piano main gauche de la grande chaconne de Jean-Sébastien.
Tout à fait.
Alors, il y a cette idée. Vous pouvez nous donner la basse et nous dire si on l'entend vraiment partout ?
Il y a même des variations qui varient exclusivement la ligne mélodique de la basse. Avec la mélodie et les accords qui l'accompagnent. Et un tout petit exemple dès la deuxième variation. Il prend juste simplement la ligne de basse et il va la varier. Sans prendre la peine, le soin de conserver la ligne thématique supérieure.
Dans ces variations, Geoffroy, il y a des groupes de variations,
oui. Il y a des variations avec des couleurs qu'on peut reconnaître, qui vont être assez intérieures. Et puis, il y a pour moi un centre un petit peu plus agité qui est vraiment avec la couleur du fantastique.
Les ballades.
Un univers, voilà. Les ballades y sont déjà. Et on retrouve aussi, je connais votre admiration pour le premier concerto.
C'est une addiction.
Tant mieux. Donc si on prend le tout début, avec ses roulements de tambour et puis ses grands intervalles qui sont immenses et énormes, eh bien en fait, il utilise donc tout le registre du piano et on retrouve tout à fait ça aussi dans la deuxième sonate. Ou alors... dans la variation numéro 6. Donc on est vraiment dans une écriture assez agitée, mais qui n'est pas une agitation fébrile et amoureuse, mais qui est plus une agitation, en tout cas moi je vois, dans le climat de tout ce qui est fantastique. Et donc c'est là où... à la fois, le contexte se prête à quelque chose de très amoureux, mais en même temps, on voit quand même que Brahms est très soucieux de son univers musical propre, parce que, avec cet univers du fantastique qui apparaît dans ses variations, finalement, il prend une certaine distance avec cette histoire fusionnelle, ces rencontres extrêmement fortes avec Clara et Robert, et il se retrouve dans son univers propre, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la deuxième sonate, il l'avait écrite avant de les rencontrer. C'est d'ailleurs l'œuvre qu'il va jouer, il jouera sa première et sa deuxième sonate en les rencontrant.
Alors, pour parler très chic, on va parler d'intertexte, oui. Et on va se tourner vers les variations opus 20 de Clara Schumann. Alors, les variations opus 20 ont été écrites...
en 1853, pour l'anniversaire de Schumann, en prenant... donc, un thème qui se trouve dans les Buntblätter, opus 99 de Schumann, et elle en fait des variations très très belles, très réussies, où C'est troublant la proximité de la musique qu'elle écrit avec celle de Robert, son mari, puisqu'on a vraiment des traits d'écriture qui sont signés de Robert Schumann.
Ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'avait pas écrit de musique de piano depuis 7 ans.
Tout à fait. Donc, elle retourne à la composition.
Alors, nous avons choisi un extrait de ces variations opus 20 oui. par Jean Martin, que voici. Jean Martin, un extrait des variations sur un thème de Robert Schumann, de Clara Schumann. Dans une des dernières lettres que Robert Schumann a écrites à son épouse, le 12 octobre 1954, il écrit ceci. « Je veux te dire aussi que je suis de plus en plus charmé de tes variations opus 20. Elles me rappellent ton jeu et le mien. » Donc l'intrication des trois personnes est totale, à la fois musicale et...
Surtout musicale. Enfin, je pense qu'elle a été, c'était quelque chose de constructif pour eux, dans la mesure où les uns et les autres se donnaient des avis et avaient une réelle admiration les uns pour les autres, et ce qui leur permettait de s'exprimer. Donc Clara par rapport aux œuvres de Robert, mais Clara également par rapport aux œuvres de Brahms. Et en même temps, elle a arrêté la composition pour laisser la composition complètement à Robert, puisqu'elle elle était une brillante pianiste, mais également avec des talents de compositeur importants.
En clair, c'était elle qui faisait bouillir la marmite dans c'est le couple. C'est elle qui jouait Beethoven, oui. Brahms.
Elle a eu une vie.
Oui, de grande interprète, outre d'être la femme de ce grand génie. Alors... Maintenant, je crois qu'il y a un autre fantôme qui passe là-dedans et qu'on entend très facilement, que vous avez peut-être entendu dans une des variations, il y a ceci qui passe. C'est Youri Egorov, qui est un schumannien que nous pleurons toujours, comme Catherine Collard. C'était extrait des Buntblätter, les feuillets multicolores, opus 99 de Robert Schumann. Et c'était un des extraits du deuxième cycle qui est dans ce cycle composite. D'ailleurs, au fond, tous les cycles sont composites. Ça n'est pas péjorant que de dire ça. C'est les feuillets d'album. Alors, celui-là, il traîne... dans ce que vous venez de jouer.
Exactement. En fait, Brahms s'amuse à reprendre exactement l'écriture donc de ses arpèges, de ses arabesques, avec ses basses sautillantes, mais il a introduit aussi son thème, c'est-à-dire... On retrouve à la fois la ligne du thème et l'idée de Schumann de cette circulation avec ses basses sautillantes. Et donc c'est quand même un travail en termes de citation d'une réussite exemplaire. Et en plus, il arrive à introduire la variation, donc ce qui est quand même extrêmement admirable. Pour revenir aussi au petit extrait qu'on a passé des variations de Clara, on peut voir aussi la différence d'approche de Clara qui, elle, varie le thème. Vraiment, pour elle, c'est la ligne mélodique,
oui.
Et qui va s'en tenir à la ligne mélodique, et on va la retrouver dans toutes les variations. Alors que Brahms, dès la première variation, il varie effectivement le thème, mais en le mettant en bas. Comme si il voulait dire à l'auditeur, bon... Écoutez bien ce qui se passe en bas, parce que c'est quand même important. On va y retourner assez régulièrement. La deuxième variation, c'est pareil. Cette fois, il varie, donc j'en ai déjà parlé, le rythme de la ligne mélodique du thème. Et puis, dans la troisième variation, toujours pour brouiller un petit peu les pistes, le thème, donc traditionnellement, on peut dire qu'au piano, en général, une ligne mélodique, si on veut qu'elle soit dégagée, on la met dans l'aigu. Comme est présenté d'ailleurs le thème, c'est-à-dire que le thème, la ligne mélodique, elle est là-haut. Hein, ça assure un petit peu d'une espèce de vision comme ça d'un paysage
sonore. Alors, dans
sonore.
La troisième, qu'est-ce qui se passe ?
Et dans la troisième, eh ben, une fois c'est au-dessous, une fois c'est au-dessus. Ce qui se passe aussi pour le pianiste, c'est que c'est la main gauche qui joue le thème, et une fois la main droite est au-dessous, et puis ensuite elle passe dans l'aigu. Et pourtant le thème, la ligne du thème, reste au même endroit. Donc on se retrouve à jouer comme ça déjà avec la spatialisation des registres.
Cela veut dire que cette manière d'écrire de la musique ne doit rien aux singeries virtuoses du 18e, où on faisait une variation en croche, une variation en double croche, une variation en mineur, etc. Là, c'est extrêmement composé. Par exemple, si on regarde la métrique, variation 1, elle est à 2-4. La variation 2, elle est à 9-8. Oui. La variation 3, elle est à 2-4 à nouveau.
Et après, on reste longtemps
à 2-4.
C'est ça. 6-8. Et ce n'est pas la pièce la plus complexe. Effectivement, on passe quand même 3-4, 2-4, 6-8, 9-8.
Ce qui est surprenant quand même, ouais. Quand on écoute cette œuvre, comme je l'ai écoutée avant de venir vous écouter, Geoffroy, c'est que cette œuvre paraît presque Durchkomponiert. On a l'impression que c'est une seule couleur.
Oui. Oui, oui. Mais alors, c'est tout à fait. Il arrive, malgré tout ce travail de variation qui est réellement avec une grande, grande richesse, à donner une unité. Et on a l'impression qu'il y a une fluidité dans l'articulation
des moments différents. Oui.
Et ce que j'aimerais souligner, c'est un petit peu ce basculement qui va s'opérer dans la variation 4. Où là, autant, donc on a parlé un petit peu des trois premières variations, dans la variation numéro 4, il marque poco più moto, donc on revient à 2-4. Il y a le thème qui est varié, donc la ligne mélodique. Qui tourne autour des notes de... Avec un accompagnement... Si on joue tout ça ensemble. Mais on ne sait pas si cet accompagnement, il est là pour agiter, il est là pour donner un rôle harmonique, il est là pour... On est en train de perdre pied. Et là, on passe justement...
Mais c'est le sujet de la variation suivante, surtout.
C'est ça. Et on passe, effectivement, à la dimension fantastique que j'ai évoquée tout à l'heure.
Allegro capriccioso.
C'est ça, Allegro capriccioso, où vraiment on retrouve cette espèce d'hallucination sonore où l'auditeur est plongé dans une confusion entre le rêve et la réalité. Et c'est vraiment ça, dans la variation numéro 4, on commence à perdre pied, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, bon, même dans les premières variations, il brouille tout de suite un petit peu les pistes. Et d'ailleurs, la variation numéro 5, elle varie, on retrouve un petit peu le thème, hein, mais on ne sait pas ce qui génère. C'est-à-dire que ce rebondissement qu'on a dans la quatrième va être le rebondissement, mais cette fois beaucoup plus accentué. Mais on reconnaît à peine la ligne thématique. Et là, on passe vraiment dans cet univers du fantastique qui est essentiel pour le sentiment du grandiose qui submerge un petit peu, qui emporte l'auditeur et qui fait perdre le sens de la réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mes yeux, est très important parce qu'elle sort, hein, encore une fois, ces variations de ce contexte d'une rencontre amoureuse et elle affirme qu'effectivement, Brahms se voyait réellement compositeur. Parce qu'il n'empêche que même avec le fait de prendre un thème de Schumann, même avec les variations qu'évidemment il connaissait très bien de Clara, il arrive à en faire quelque chose rattaché à lui-même très profondément.
Vous voulez dire que c'est peut-être sa première œuvre, même si elle est cachée derrière Robert Schumann et Clara Schumann, c'est la première œuvre où il dit « je » à ce point-là ?
À mon sens, oui, vraiment, parce que même dans la troisième sonate, elle est marquée par l'influence de la troisième sonate de Schumann, qui est aussi en fa mineur, certainement de manière inconsciente. C'est sublime de réussite, et loin de moi l'idée de dire que ce ne serait pas une œuvre accomplie. Mais dans ces variations, en tout cas, en les étudiant d'un peu plus près, avec ce contexte-là, je trouve que ça aurait pu être au contraire un espèce de qu'il se sente happé vers cet amour qu'il a pour Clara et pour Robert, et que donc qu'il fasse simplement du Schumann. Et quelque part, il le tourne presque au dérisoire avec même cette situation qu'on a faite de cette variation. Il est capable de s'en amuser avec ce thème, de mêler les deux, et donc ça montre quand même une grande distance avec le langage musical et ce qu'il veut en faire. L'autre chose aussi qui est, on a parlé d'un petit peu de couleurs comme ça, qui sont dans ces variations, c'est la présence du canon. Alors évidemment, Brahms a été un génie dans l'approche du canon, puisqu'on retrouve ça dans ses symphonies, on retrouve ça dans quasiment toutes ses œuvres pour piano.
Alors, rappelez-nous ce que c'est qu'un canon.
Alors, on va prendre un canon, par exemple, un canon à l'unisson, qui serait, on a tous chanté Frère Jacques, hein. Pendant qu'il y a une voix qui chante, l'autre part en décalé. Donc, ça, c'est un canon qui sera à l'unisson, puisque la voix qui reprend joue les mêmes notes. Dans le cas de Frère Jacques, c'est possible, puisque c'est une ritournelle comme ça. Si, par exemple, on prend un canon à l'octave aussi,
alors
il
ça,
va
c'est
faire,
une, c'est
dans
une,
la variation numéro 8, un canon à l'octave.
Technique. Dans les variations, il y a même une œuvre de Jean-Sébastien qui s'appelle Variation canonique. Et il y a dans les Goldberg, ça fait partie d'une histoire.
Absolument, mais ça c'est aussi caractéristique de Brahms,
oui.
C'est que il est dans l'histoire et il puise son inspiration par ce qui a déjà été fait avec une volonté d'inventer. Il est capable effectivement d'inventer un canon.
Alors ils sont où ces canons ? Dans quelle variation ?
Variation numéro 8. L'autre voix va répondre avec des petits battements. Donc elle fait vraiment les mêmes notes. Il fait un canon à l'octave, donc ça c'est assez simple puisque c'est la même note. Il fait un canon alors à la seconde, ça veut dire qu'il y aura une note, si on prend l'exemple de, pour revenir à Frère Jacques, ça ferait qu'on partirait avec et puis ensuite à la seconde. Donc vous imaginez la complexité parce qu'on n'est pas dans un langage qui est atonal, pour que ça puisse être en calé avec l'harmonie.
C'est
la variation numéro 14 où il y a effectivement cette cellule là Et puis il y a l'autre voix qui rentre, qui est effectivement la même. Et donc si on les fait superposer, ça va faire... Et avec un accompagnement... Ce qui est admirable vraiment dans cette écriture, c'est que c'est insoupçonnable.
Oui, parce qu'on
en termes de travail,
la
simplicité dans laquelle on est de cette couleur, de cette variation numéro 14, où c'est vraiment un endante.
Si on
n'écoute
pas très bien, on a l'impression que c'est une mélodie accompagnée.
Mais complètement.
Mais
alors qu'en fait,
on s'aperçoit
c'est double voix avec un travail et un canon qui est rigoureux. Hein. Il n'y a pas un endroit où ça cloche. Il y a un canon ensuite dans la variation numéro 15 à la sixte.
Ah, la sixte, c'est Brahms.
La sixte, voilà, c'est Brahms. Enfin,
signature.
Il faut attendre la 15e variation pour avoir les sixtes.
En fait, nous écouter une sixte.
Alors, une sixte, ça va faire ça. Si on joue le thème à la sixte, ça fera ça. Pardon. Et lui, ce qu'il fait, c'est en canon, donc là, cette ligne-là, et il la met à la basse, ça fera...
Et comme d'habitude, il brouille les pistes.
Voilà, avec un accompagnement. Et malgré cette difficulté, évidemment,
c'est
qui s'impose.
Une barcarolle.
Il y a quelque chose de, effectivement, d'une barcarolle, une berceuse, on ne sait pas trop, quelque chose qui est vraiment très, très doux, très expressif.
Avec des bémols plein partout.
Ah oui, alors là, on est très proche des ballades, pour le coup, la dernière, avec des... Voilà. Et c'est vrai que ce sont des tonalités assez complexes pour le pianiste, parce qu'on ne sait jamais sur quelle note on se trouve. Vraiment.
C'est un métier très difficile.
C'est ça. Il faut se plaindre un petit peu, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel
comme
point
c'est dur.
Difficile.
Oui.
Donc, voilà pour les canons.
Alors, ce que je trouve, moi, extraordinaire, en tant qu'auditeur... c'est qu'en entendant la variation 14 et la variation 15, même si elles changent violemment de tonalité, elles ont la même allure de quelque chose de plaintif sur un fond continu de double croche ou de croche.
Oui.
Et donc, on arrive à une sorte de perfection de l'euphorie du jeu et après, on tombe dans...
Ah oui, alors là, par contre...
Variation 16, faites-nous le passage. C'est rude, ça. Alors, je suppose que la variation 16, qui est un adagio qui s'enfonce vraiment, le thème est quelque part ?
On a des fragments du thème, en fait. Donc, on a, par exemple, une petite descente. Et puis... Mais ce sont que des fragments. Par contre, ce qu'on a, évidemment... et qui est imperturbable, c'est la basse, puisqu'on retrouve rigoureusement. La basse du thème, hein. Mais cette fois, on est passé en majeur. Et c'est vrai que cette variation, précisément, est pour moi une sorte d'écho au climat de Gesänge der Frühe, donc de l'opus 133 de Schumann,
le chant de l'aube,
qui est la dernière pièce que Robert composera, juste à la suite de la rencontre avec Brahms.
1853.
En 1853, donc le 30 septembre, Johannes Brahms arrive chez les Schumann, et au mois d'octobre, Robert se remet à la composition en composant les pièces pour alto et violoncelle et les Gesänge der Frühe.
Alors, les Gesänge der Frühe, opus 133, le premier s'appelle Im ruhigen Tempo, dans un tempo apaisé, reposé.
C'est ça. Reposé, oui.
La première pièce des Chants de l'Aube, Gesang der Frühe, opus 133, 1853, Les Chants de l'Aube de Robert Schumann, par Maurizio Pollini, dans un tempo calme, reposé. Alors, Geoffroy, tout à l'heure, on a noté qu'il y avait eu une première version, et puis qu'ensuite il a rajouté les variations 10 et 11 sur l'œuvre pour la fête de Clara. Düsseldorf, le 12 août 54, Johannes Brahms. Il faut dire qu'ils bougent beaucoup, hein, tous les trois, à l'époque, entre Düsseldorf, voilà. Oui. Il y a des tas de rencontres évitées, on va c'est dire. Et... Alors, 10 et 11, elles ont quoi de particulier? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi elles n'étaient pas au début?
Parce que certainement qu'il a éprouvé le besoin de composer quelque chose d'autre pour elles, vraiment particulièrement. Et ces deux variations ont une couleur et une marque expressive au dolce, pianissimo et dolcissimo l'accompagnement, l'accompagnamento. Donc c'est quelque chose d'extrêmement doux, relié à Clara.
Et contrasté, parce que la suivante est oui, une poco più animato, et en plus elle est à 4-16.
L'autre est à 4-16, effectivement.
Le changement est violent tout de même.
Il se fait progressivement parce qu'il y a un poco più animato. Il est violent sur le papier. Quand on voit ça, on se dit, on passe de là à là, ça doit être assez compliqué.
Il y a un diminuendo.
Voilà. Mais finalement, à l'oreille, ça passe sans contraste. L'intérêt de la force de cette variation numéro 10 et la suivante, c'est qu'il va encore une fois varier la basse, cette fois qu'il va mettre en haut. Et la basse de cette variation sera un miroir renversé, un petit peu comme s'il faisait une figure géométrique axiale, la symétrie axiale. Et si un intervalle descend sur la ligne du haut, l'intervalle en bas sera le même, mais renversé, donc il va monter. Donc ça fera...
C'est très visible, par exemple, faites-moi la mesure 1, 2, 3, 4, la mesure 5, en prenant ça, c'est très très lisible. Alors, évidemment, c'est caché par les doubles croches, mais c'est...
Et les doubles croches, voilà. Elles viennent d'où? C'est le thème original qui est diminué. C'est comme si c'était raccourci, parce que quand on fait do, si, do, sol, là, il fait exactement la même. Mais, donc ici, pardon, on reconnaît le thème de la ligne descendante. Et donc, de construction, c'est pareil, c'est ahurissant, parce qu'on a l'impression d'entendre une jolie mélodie expressive, tendre, qui vient d'une inspiration, on va dire, je ne sais pas moi, divine.
Céleste,
voilà. Et en fait, pas du tout, c'est simplement un travail thématique où il reprend le thème, la ligne de basse, il la renverse et il en donne quand même une couleur exceptionnellement réussie. Et alors, d'ailleurs, à ce sujet, Schumann, puisque Brahms envoie le manuscrit, évidemment, à Schumann quand il est déjà interné, Schumann écrira une lettre qu'il n'enverra pas à Brahms, où il parle des variations avec un grand enthousiasme, et plus particulièrement, il dit « Et comme la dixième est ingénieuse et tendre, comme la onzième est singulière et délicate ». Il se trouve que ce sont les deux variations qui sont rajoutées et qui sont vraiment habitées par la personne de Clara. Ensuite, il va varier cet accompagnement. Au lieu d'avoir ces doubles croches portées, il va faire des arpèges. Toujours dans ce balancement-là, avec une rupture un petit peu où on a l'impression qu'on passe en ternaire. L'impression d'être dans un 6-8 que dans un 2-4.
Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que revient le rythme pointé du thème, oui. Discrètement.
Tout à fait.
Il est là,
tout
encore.
Tout à fait, absolument. On retrouve la même cellule thématique.
C'est pour ça que ça donne l'impression, quand on l'entend vraiment, comme je l'ai entendu tous ces jours-ci, beaucoup de fois, on a l'impression que c'est une seule coulée.
C'est vraiment la sensation que ça donne.
Ouais.
Parce qu'en plus, tout s'enchaîne, enfin, il y a assez peu de ruptures, et la variation 11 donne, je trouve, le sentiment d'irréel, un peu comme la magie de l'évocation d'une caresse où il se demande si c'était bien réel. Il y a quelque chose, puisque en fait, il finit la variation numéro 10 avec où on est dans une résonance d'un accord de Ré majeur. Et ensuite, avec cette harmonie où on ne sait pas trop si on est en majeur, si on est en mineur. C'est quand même curieux comme harmonie.
Et on est surtout très décontenancé par le fait qu'on est à la fois au plafond et à la cave.
Exactement.
Ça, c'est très impressionnant.
Tout à fait, puisqu'on est vraiment avec les basses, la basse la plus profonde, la note, je pense, la plus grave du piano de l'époque. À savoir le Ré en bas. Et puis... Il y a vraiment ces petits points qui sont notés sur ces doubles croches, avec sempre dolcissimo, avec de la pédale, et des phrasés, des choses qui sont vraiment l'expression la plus aboutie.
Il y a les petits points, Geoffroy, mais il y a aussi des signes de liaison, tout le temps.
Oui, ça pour
aider le pianiste à être un peu plus mal.
C'est vrai, c'est ça. C'est qu'il y a l'ambiguïté là, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au piano, soit on joue legato, soit on joue staccato, mais là, il demande de faire les deux en même temps, ce qui rend les choses un peu compliquées, puisqu'on a des points, donc ce qui veut dire qu'on a une attaque qui est légère où on lâche la note et un phrasé qui relie les notes. Donc ça donne en fait un son qui est un peu comme en suspens, en rebond de quelque chose qui est insaisissable.
C'est des fantômes.
C'est ça. Et c'est vraiment aussi peut-être une clé de compréhension de leur histoire où Brahms a peut-être douté de ce qui s'est passé. Peut-être... Enfin, il n'en revient pas, quoi. Il y a quelque chose de parce que il y a une telle douceur et aussi un son qui est tellement insaisissable là-dedans que on est loin, par exemple, de la déclaration de Robert dans Widmung, où là il y a une passion.
Oui, vraiment. On est dans la fin de l'histoire,
c'est
comme
ça.
Dit Schumann quelque part dans une de ses œuvres. Eh bien, merci Geoffroy Couteau, peut-être redevenir brahmsien, mais je ne désespère pas de vos efforts héroïques. Mais en tout cas, là, je crois que j'ai marché et j'espère que les auditeurs de France Musique aussi ont marché. On vous retrouve le 12 janvier prochain à 17h30 à la salle Cortot à Paris, dans un programme Scriabine Chopin. Et nous allons quitter le trio infernal Brahms, Clara, Robert Schumann. Et la semaine prochaine, ce sera avec Claude Lavoie et Jean-Sébastien Bou, un jeune baryton, qui nous proposeront des mélodies de Claude Debussy et puis aussi d'un autre personnage qui ne fréquente pas beaucoup mes émissions, mais c'est un grand compositeur aussi. Et puis lundi, c'est Édouard Fouré-Colfuti, comme d'habitude. Et puis merci à toute l'équipe, Valérie Lavalard, Romain Lenoir, Véronique Cardiles et Géraldine Pruntner, qui a réalisé l'émission. Je vous retrouve avec plaisir vendredi prochain et j'espère que vous passez un excellent week-end à l'écoute de votre chaîne favorite, France Musique, naturellement.